Bonjour à chacun. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rêver, de souhaiter, de prier que le Seigneur envoie ici, dans notre Église, de nouvelles personnes? Et je ne parle pas de nouvelles personnes qui iraient déjà dans d'autres églises, mais de personnes qui ne connaissent pas encore Jésus comme leur Seigneur. Si jamais, en tant qu'Église, nous nous lançons dans les parcours alpha, c'est peut-être ce qui se produira. De nouvelles personnes viendront à l'Église. Et c'est aussi ce qui se produit de façon peut-être plus étalée dans le temps, lorsque l'un de nous invite ici un ami, quelqu'un de sa famille, un collègue, un voisin. Et si ces personnes viennent, si elles se trouvent parmi nous, quel message allons-nous leur faire entendre? Dans le cadre de préparer le chemin du Seigneur, nous nous sommes rappelés que la mission que Jésus nous a confiée, en tant qu'Église, mais aussi en tant que disciple, notre mission est de faire d'autres disciples. Et si de nouvelles personnes viennent à l'Église, le message qu'elles devront entendre sera donc un message non pas qui fera d'elles des disciples, parce que ça c'est une affaire entre elles et le Seigneur, mais elles devront entendre un message qui les éclairera sur comment devenir disciples de Jésus. C'est-à-dire qu'elles ne devront pas simplement entendre parler de la foi en Jésus de manière générale, mais qu'elles devront aussi entendre parler des implications pratiques de la foi en Jésus afin qu'elles puissent justement les mettre en pratique dans leur propre vie. D'où le titre de cette prédication, c'est ce qui est sur les feuilles qui ont été distribuées, les feuilles jaunes. Pour faire des disciples, parlons de la foi en Jésus, mais aussi de ses implications. Si la mission que nous voulons remplir, c'est de faire des disciples, nous ne pourrons pas parler de la foi en Jésus sans parler aussi de ce que cette foi implique dans la vie de ses disciples. Et ce matin, je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles à deux passages différents. Le premier se trouve dans l'Évangile de Luc, au chapitre 24. Donc, si vous n'avez pas de Bible, il y en a à disposition, comme ceci au fond. Et en plus, si vous avez cette Luc 24... Pardon ? J'ai mis 14. Oui, vous avez raison, c'est 14. Luc 14 et à la page 626, si vous avez cette édition. Merci. Hein. Dans quel contexte a été écrit ce passage? Une grande foule accompagne Jésus dans tous ses déplacements. Là où il va, des gens le suivent. Et à un moment, Jésus se retourne et s'adresse à ceux qui sont derrière lui, ceux qui le suivent, et il leur dit ceci. C'est Luc 14, verset 26. Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Pour être disciple de Jésus, il faut préférer Jésus à toute autre chose. Et cette préférence pour Jésus doit être tellement nette, tellement absolue, que ce que je viens de lire peut également être traduit ainsi. Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, il ne veut pas être mon disciple. Et non pas que Jésus nous demande ici de haïr nos proches. Ce serait la seule fois que Jésus nous demanderait cela. Non seulement Jésus nous demande d'aimer nos proches, mais il nous demande même d'aimer jusqu'à nos ennemis. Mais ce que Jésus veut dire par là, c'est que l'on ne peut pas venir à lui. On ne peut pas être son disciple si Jésus n'a pas la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Alors, nous pouvons aimer bien d'autres choses, hein, et si ces choses ne sont pas un péché, nous avons une liberté totale de les aimer. Nous pouvons aimer bien d'autres choses, mais Jésus doit avoir la première place. Notre amour pour Jésus ne doit pas être exclusif, il doit être prioritaire. C'est d'ailleurs ce que Jésus nous dit lorsqu'il résume l'ensemble des commandements de Dieu en disant que prioritairement, il faut aimer Dieu. Et pas aimer Dieu un petit peu. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. Et en second seulement, il nous dit d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ce qui caractérise un disciple, c'est non seulement qu'il aime Jésus, mais c'est aussi que parmi tout ce qu'il aime, il donne à Jésus la première place. Parce que suivre Jésus implique que parfois, à certains moments de notre vie, dans certaines situations particulières, nous devrons faire un choix. Et c'est justement à l'occasion de ce choix que va apparaître réellement ce que nous préférons. Lorsqu'il y a une tension, lorsqu'on doit forcément choisir l'un ou l'autre, est-ce que nous préférons suivre Jésus ou bien est-ce que nous préférons suivre quelqu'un d'autre ou bien nos propres désirs? C'est par nos choix que même nous prenons conscience de ce qui compte vraiment pour nous. Vous savez, des fois, on s'illusionne sur la nature de notre foi. Moi, des fois, j'aime bien être obligé de faire des choix parce que même pour moi, les choses deviennent plus claires. Qu'est-ce que je préfère? Si je dois forcément lâcher une chose, laquelle je vais garder, laquelle je vais lâcher? Avoir la foi en Jésus, ce n'est pas seulement croire que Jésus existe, mais c'est donner à Jésus la priorité sur toute autre chose. Et on ne peut pas faire le choix de suivre Jésus, on ne peut pas faire le choix d'être disciple de Jésus, sans essayer de tout garder. Forcément, pour nous, c'est un choix. C'est pour cela que, si nous voulons faire des disciples, parlons de la foi en Jésus, mais aussi de ses implications pratiques. C'est notre deuxième point. Et le texte que nous allons lire maintenant se trouve, si je ne fais pas d'erreur, dans le livre des Actes au chapitre 24. Paul est prisonnier des Romains car les autorités juives l'accusent de provoquer des révoltes. Et l'apôtre Paul vient d'être transféré à la prison de Césarée, qui est la capitale de l'Empire romain en Palestine. Et la région est sous le contrôle d'une sorte de gouverneur nommé Félix. C'est un homme qui est cruel, mais il sait que si Paul est en prison, c'est uniquement parce qu'il parlait de sa foi en Jésus. Acte 24, je commence ma lecture au verset 24. Quelques jours plus tard, Félix vient avec sa femme Drusille, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il écouta parler de la foi en Christ. Mais lorsque Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand je trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Paul est face à l'homme le plus puissant de la région. Cet homme est accompagné de son épouse. Et que fait Paul ? Paul parle de la foi en Jésus. Ça, c'est formidable. Quelle occasion ! Paul a, et il l'a saisi. Alors, peut-être que Paul, comme il l'a fait par ailleurs, hein, le récit là est très court, peut-être que Paul a donné son témoignage personnel et qu'il a parlé de sa propre foi en Jésus. Mais ici, le texte met l'accent sur le fait que Paul parle de la foi en Jésus. Et Félix est attentif à cela. Il est écrit « Il écouta parler de la foi en Christ ». Paul bénéficie de toute son attention, et tant que Paul parle de la foi en Jésus, cet homme reste là à l'écouter. Vous vous rendez compte de la situation? L'homme le plus puissant de la région, en compagnie de son épouse, est venu jusqu'à Paul pour l'écouter parler de la foi en Jésus. Et cet homme, hein, par sa position, peut complètement changer la situation de l'Église et de Paul. Paul semble déjà bénéficier de la sympathie de Félix, mais la mission de Paul n'est pas de conserver ou de gagner la sympathie de ceux qu'il croise. Sa mission n'est pas non plus que les gens éprouvent de la sympathie pour lui-même, ni sa mission est que les gens éprouvent de la sympathie pour Jésus. La mission de Paul, sa mission, c'est de faire des disciples de Jésus. Aussi, Paul ne va pas se contenter de parler de la foi en Jésus, en général. Paul va aussi parler de la foi que Jésus implique dans Lévi. Et notre texte nous dit que Paul discuta de la justice, de la maîtrise de soi et du jugement à venir. Et quelle a été alors la réaction du gouverneur ? Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Tant que Paul ne parlait que de la foi en Jésus, Félix l'écoutait. Mais lorsque Paul s'est mis à parler de justice, de maîtrise de soi et de jugement, Félix a pris peur et a congédié Paul. Alors, ce qui n'apparaît pas dans le texte, mais que d'autres documents de l'époque nous révèlent, et ça c'est ce que Paul savait ainsi que tous ses contemporains, c'est que, aux yeux de Dieu, Drusille ne pouvait pas être la femme de Félix. Alors, ce qu'on découvre dans d'autres récits, c'est que Drusille passait pour la plus belle femme de son époque. Elle était mariée à un petit roi de la région. Mais lorsque Félix est arrivé, mandaté par le pouvoir de Rome, et qu'il a croisé cette superbe femme, il n'a pu maîtriser son désir. Et après de sombres arrangements et tractations, il s'est arrangé pour qu'elle devienne légalement sa femme. Ce qui arrangeait bien les affaires de Drusille, d'un tout petit roi, ce n'était pas un mariage par amour qu'elle avait fait, d'un tout petit roi, elle devenait l'épouse de l'homme le plus puissant, mais ce qui arrangeait également les affaires du roi Hérode Agrippa II, qui était le frère de Drusille. Entre amis ou entre familles, on s'arrange. Et Félix est là, en compagnie de Drusille. Ils sont devant Paul, ils l'écoutent parler de la foi en Jésus. Eh bien, Paul va aider Félix à comprendre quelles implications avait la foi en Jésus dans sa propre vie. Le but de Paul n'est pas que cet homme, si puissant soit-il, devienne un sympathisant de Jésus, mais qu'il devienne un disciple. Et c'est pour cela que Paul va délibérément choisir de parler ici de justice, de maîtrise de soi et de jugement. Non pas pour enfoncer Félix, mais au contraire pour lui permettre de prendre conscience de son péché, afin qu'il puisse ainsi se repentir et devenir un disciple de Jésus. Je me demande ce que nous aurions fait à la place de Paul. Est-ce que nous nous serions contentés de faire de Félix un sympathisant de Jésus, ou bien est-ce que nous aurions cherché à aller plus loin et d'en faire un disciple de Jésus? Parce qu'il est beaucoup plus facile de se contenter de faire des sympathisants de Jésus. Si vous voulez avoir plein d'amis, contentez-vous de faire des sympathisants de Jésus. Parce que beaucoup de gens ont une opinion favorable de Jésus. Jésus enseigne l'amour, la justice, la droiture, et ça fait écho chez les gens. Et tant qu'on reste sur des généralités, les gens adhèrent avec l'enseignement de Jésus. « Waouh, ça c'est très bien !» C'est plutôt lorsque les gens réalisent ce que Jésus attend d'eux, et qu'ils réalisent que ce message d'amour, de justice, de droiture, Jésus leur demande de le mettre en pratique dans leur propre vie, que généralement les choses se gâtent, et que là, leur sympathie disparaît. En fait, on pourrait dire que sympathisant de Jésus, oui, pratiquant, non. Il est aussi pour nous il ne faut pas se voiler la face, hein, il est aussi pour nous beaucoup plus agréable de nous contenter de faire des sympathisants de Jésus. Parce que tant que nous parlons que de généralité sur Jésus, les gens nous trouvent sympathiques, nous aussi. Ils nous écoutent, ils nous apprécient, il faut reconnaître, on apprécie ça, enfin on aime ça. Moi j'aime bien que les gens me trouvent sympathique, qu'ils aient une opinion favorable de moi. Si jamais demain, le Seigneur envoie dans notre Église de nouvelles personnes, des personnes qui ne sont pas encore des disciples de Jésus, quel message allons-nous leur faire entendre? Un message qui fera d'elles des sympathisants de Jésus, ou bien un message qui les aidera à devenir des disciples de Jésus? Notre mission, la mission que le Seigneur nous a confiée, n'est pas de faire des sympathisants de Jésus, mais de faire des disciples de Jésus. Le but que nous poursuivons n'est pas que de nombreuses personnes viennent à l'Église, mais que de nombreuses personnes viennent à Jésus. Il y a une sacrée nuance entre les deux. Cela signifie que notre message ne devra pas garder sous silence les implications personnelles de la foi en Jésus. Alors, bien sûr, hein, notre crainte, c'est qu'en délivrant un message trop radical, un message qui met l'accent sur l'engagement personnel à suivre Jésus, les gens prennent peur et s'en aillent. Et c'est justement ce qui s'est passé avec Félix. En entendant parler de justice, de maîtrise de soi, de jugement, Félix fut effrayé et lui dit « Retire-toi pour le moment ». Alors là, c'est Félix qui a le pouvoir, donc c'est quelque part, voilà, va voir ailleurs. Nous ici, ce serait plutôt les gens « Je vais voir ailleurs ». Cette crainte de faire partie des gens, nous l'avons tous. Moi, cette crainte, je l'ai chaque fois que je prêche. Chaque fois que je viens ici, j'ai cette crainte. Vous savez, des fois, il y a des gens qui se lèvent et on ne sait pas forcément pourquoi. Et combien des fois il est troublant de se dire, mais est-ce que j'ai dit quelque chose avec lequel ils ne sont pas d'accord et ils partent? C'est insupportable. J'ai peur que les gens n'aiment pas ce que je vais dire et qu'ils se coupent de moi ou bien qu'ils ne reviennent plus à l'Église. C'est peut-être arrivé. Et si jamais ce n'est pas arrivé, en tout cas j'ai la conviction que ça c'est quelque chose qui arrivera un jour ou l'autre. Et j'en serai profondément triste. Il serait bien plus facile et agréable de délivrer un message que tout le monde trouve sympathique, un message qui ne déplaira à personne. Ça, c'est bien plus facile et agréable. Mais si nous évitons de dire ce qui déplaît aux gens, alors il nous faudra garder au silence ce qui plaît à Dieu. Je pense même que, plus généralement, il ne faudra même plus rien dire du tout. Une église qui ne dit rien de ce qui peut déplaire aux gens est une église morte, car elle ne fait plus entendre la voix de Dieu. Il y a des églises qui ont fait ce choix. Ça paraît payant au début. Ces églises meurent. Elles se vident. Qui que nous soyons, et ça nous devons avoir conscience de ça, qui que nous soyons, et pas seulement les nouvelles personnes, nous avons besoin d'avancer et de grandir. Parce que ce que nous vivons maintenant n'est pas 100% ce que nous pourrions vivre si Christ avait plus de place dans nos cœurs et dans nos vies. Et cela, ça veut dire que nous avons besoin d'être interpellés par le Seigneur. Et il le fait par sa parole. Dieu ne cesse de nous interpeller dans notre vie personnelle. Si vous êtes arrivé à un stade de votre vie chrétienne où Dieu ne vous interpelle sur rien, posez-vous la question. Est-ce que vous êtes devenu semblable à Jésus, ou est-ce que plutôt vous êtes sourd à ce que Dieu vous dit? Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut pointer du doigt telle ou telle personne publiquement. Ce n'est pas ça, tu vois. Je ne suis pas non plus en train de dire que nous pouvons dire les choses n'importe comment. C'est le contraire que Dieu nous demande. Dieu nous demande même de maîtriser nos paroles, aussi bien sur la forme que sur le but que nous poursuivons. En Éphésiens 4, 29, il est écrit ceci, « Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles, qui en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. » Nos paroles doivent être là pour aider les gens à avancer. Nous ne sommes pas là pour dire ce que les gens ont envie d'entendre, mais nous sommes là pour leur faire entendre ce qu'ils ont besoin de savoir pour suivre Jésus. Alors bien sûr, tout le monde n'appréciera pas de se sentir interpellé, et certains partiront. Mais ceux qui partiront ne venaient probablement pas à l'Église pour Dieu. Ils venaient ici probablement pour d'autres motivations, peut-être par curiosité, peut-être aussi parce que l'endroit était sympathique et rempli de gens sympathiques. Globalement, quand les gens arrivent ici, ils sont plutôt bien accueillis. Des gens ne retrouveraient pas la place ailleurs, dans d'autres contextes. Ici, ils ont toute leur place, quelle que soit leur origine, leur milieu. Et ça, c'est quelque chose que les gens aspirent à rencontrer. Les gens peuvent venir ici pour toutes sortes de motivations. Et nous devons être conscients que ce qui amène des personnes à l'Église, ce n'est pas forcément Dieu en premier qui les amène ici. Ce n'est pas forcément leur motivation première. Et si les personnes ne viennent pas ici pour Dieu, mais seulement par intérêt personnel, alors il est normal que si nous mettons sans cesse Dieu en avant, il y aura un décalage entre leur motivation première et ce qu'ils vivront dans l'Église. Et à un moment ou un autre, elles risquent de se retirer comme Félix l'a fait. Mais pour les autres, pour ceux qui viennent à l'Église pour Dieu, parce que Dieu a touché leur cœur, se sentir interpellé par le Seigneur va avoir sur leur vie toute autre conséquence. Pas forcément agréable au début, mais combien bénéfique dans leur marche avec Dieu. Voici ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 7:10. La tristesse conforme au plan de Dieu produit un changement de comportement qui conduit au salut sans qu'on ait à le regretter. Ceux dont le cœur a été touché par Jésus peuvent être attristés sur le moment lorsque Dieu les interpelle. Moi, ça m'arrive constamment. Enfin, constamment, pas à chaque seconde, mais de réaliser qu'en fait, ce que je vis, que mon cœur n'est pas un cœur qui aime comme le Seigneur voudrait que j'aime. Et ça produit une tristesse. Mais cette tristesse-là, lorsque notre cœur a été touché par Dieu, n'est pas quelque chose qui nous coupe de Dieu, mais qui nous pousse au contraire dans ses bras et aller de l'avant avec lui. Les cœurs qui sont touchés par Dieu répondent à l'appel du Seigneur. Et ça, on doit en être conscient. Ce n'est pas nous qui allons convertir des personnes. Des fois, c'est comme si tout reposait sur nos paroles. Nous ne sommes là que pour faire entendre la voix du Seigneur. Celui qui touche les cœurs, c'est le Seigneur. Et nous ne devons pas oublier que ce qui peut faire qu'une parole, et parfois même une parole bénigne qui nous semble toute simple, va dans la vie d'une personne prendre du poids, c'est parce que le cœur de cette personne a été touché par Dieu et que le Saint-Esprit qui vit en cette personne va faire en sorte qu'elle va répondre favorablement à l'appel de Dieu. Vivre avec Jésus implique un changement de vie. Être son disciple passe par un changement de vie. C'est une vie nouvelle à laquelle le Seigneur nous invite. Et ce changement-là, on ne le regrette pas. On ne regrette jamais de nous être approchés de Jésus. Si nous voulons que les gens avancent en direction de Jésus, nous devons les aider à prendre conscience de ce que le Seigneur attend d'eux. Et c'est en faisant entendre un message clair que nous permettrons à ces personnes de devenir disciples de Jésus et pas seulement des sympathisants de Jésus. Nous devons proclamer un message clair, et ce message, nous le proclamerons par nos bouches, mais pas seulement. Il n'y a pas que par nos bouches que nous proclamons ce que Jésus peut faire dans nos vies. Nos propres vies sont un témoignage que Jésus est vivant et puissant. Et c'est notre troisième point, que nos vies personnelles témoignent de ce qu'est un disciple de Jésus. Paul ne s'est pas contenté de dire à Félix qu'il devait vivre dans la droiture, dans sa vie personnelle. Paul lui-même l'a démontré dans sa propre vie. Notre texte nous dit, verset 26, « Félix espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. C'est pourquoi il le faisait venir assez souvent pour s'entretenir avec lui. 2 ans passèrent ainsi. Et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. » Alors ce passage là nous montre que les motivations de Félix, sa motivation première, n'était pas le Seigneur. Et s'il s'entretenait souvent avec Paul, c'était que sa motivation, entre autres, était de recevoir de l'argent. Et la majorité des textes grecs nous apportent même une précision. Il est écrit « Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent pour qu'il le relâche. » La liberté de Paul dépend du bon vouloir de cet homme. Il a les pleins pouvoirs, cet homme. Il a le pouvoir de le libérer ou bien de le garder prisonnier. Il a le pouvoir de le transférer à Rome afin qu'il soit jugé, ce qui était la demande de Paul de partir à Rome. Ou bien il a le pouvoir de le laisser moisir en prison. Et c'est effectivement ce qu'il va faire. C'est seulement le successeur de Félix qui va faire évoluer la situation de Paul. Cette mention souligne que le courage de Paul et aussi sa fidélité à remplir la mission que le Seigneur lui avait confiée. D'abord, il a renoncé à conserver la sympathie de cet homme puissant et il a préféré lui indiquer les implications qu'avait la foi en Jésus dans sa propre vie. Je me dis, moi, est-ce que nous aurions faire la même chose? Vous imaginez, demain, on a quelqu'un qui vient ici, un footballeur qui gagne 300 000 euros par mois. Ou alors, notre député maire, le président de la République, je ne sais pas. Quelqu'un, on a l'impression que sa présence parmi nous peut faire évoluer les choses, favorablement pour nous. Est-ce que nous oserons lui annoncer l'Évangile à lui, comme à toute autre personne? J'espère que oui. En tout cas, Paul a eu ce courage. Il a également fait preuve de droiture dans sa mission et dans sa vie personnelle. Paul a refusé de donner à Félix l'argent qu'il lui demandait. Alors, trouver des fonds pour Paul ne devait pas poser de problème, parce que Paul l'a fait déjà à plusieurs reprises pour venir en aide aux chrétiens de Jérusalem. Paul sait qu'il pourrait compter sur la générosité des frères et sœurs, mais il ne la sollicite pas. Paul refuse de payer à Félix le pot de vin qu'il lui réclame. L'amélioration du sort de Paul ne dépendra pas de la corruption, mais de Dieu seulement. Paul aime le Seigneur, Paul lui reste fidèle même dans les moments difficiles, et il lui abandonne même sa propre vie. N'oublions pas ceci. Il n'y a pas que nos bouches qui parlent de Dieu. Nos propres vies témoignent de ce que Dieu a fait dans nos vies, de ce qu'il a commencé à faire, de ce qu'il continuera à faire. Mais aussi, c'est un témoignage de ce que Dieu peut faire dans la vie de ceux que nous rencontrons. C'est notre témoignage de vie qui donne du poids à nos paroles et qui prouve que le Seigneur est réellement en mesure de transformer des vies. Que nos paroles, mais aussi nos vies personnelles, témoignent de ce qu'est un disciple de Jésus et aussi témoignent de la manière de le suivre. Amen. J'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, merci parce qu'en venant sur terre, tu nous as montré le chemin. Tu n'es pas simplement venu nous chercher, tu nous as montré le chemin. Ta vie est un exemple pour nous. Merci parce que tu es la droiture même, la justice, l'amour. Merci pour cet exemple que tu nous as donné. Seigneur, que nos cœurs répondent à deux choses. L'amour dont tu as fait preuve pour nous, mais aussi que nous cherchions à te ressembler en tout point. C'est pour toi que nous vivons maintenant, ce n'est plus pour nous-mêmes. Que nos vies soient à ta gloire. Que nous ayons aussi, Seigneur, La joie de voir ce que tu fais dans nos propres vies, lorsque nous te laissons agir, lorsque nous te faisons confiance, lorsque nous te choisissons. Mais que nous ayons aussi la joie, Seigneur, de voir ce que tu fais dans d'autres vies. Et qu'ainsi, ensemble, nous puissions être encouragés de ce que tu fais. Amen.